Chapitre 5 Avertissement contre la mondanité et instruction à la piété. Après avoir mis en garde contre le mal de quelques-uns qui apostasieront du christianisme et adopteront une fausse religion de la chair, l'apôtre nous avertit maintenant contre des maux provenant de la mondanité à l'intérieur du cercle chrétien, et il enseigne comment s'occuper des besoins du peuple de Dieu de manière à ne rien permettre qui soit une occasion de blâme, puis d'entrave au témoignage de la grâce de Dieu devant le monde. Versets 1 et 2 L'esprit dans lequel on doit s'occuper de ce qui ne va pas. Citation de l'Écriture. Ne reprends pas rudement l'homme âgé, mais exhorte-le comme un père, les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, les jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Fin de citation. Des occasions peuvent se présenter où il se manifeste dans le cercle chrétien du mal méritant une réprimande. Néanmoins, en administrant la réprimande, il faut reconnaître ce qui est dû à l'âge et au sexe, et ainsi veiller à ce que la réprimande soit donnée dans un bon esprit. La réprimande peut être juste et n'avoir pourtant aucun effet, voire même causer du tort, si elle a été faite dans un mauvais esprit. Une réprimande juste faite dans un mauvais esprit, c'est simplement répondre à la chair par la chair. L'âge doit être respecté, même si la réprimande est nécessaire. Un frère âgé ne doit pas être repris rudement, mais exhorté avec toute la déférence qu'un fils doit à son père. Les jeunes hommes ne doivent pas être traités comme quantité négligeable, mais ils doivent être repris avec amour comme des frères, les femmes âgées avec la déférence due à une mère. On doit s'occuper des jeunes femmes en toute pureté, évitant ainsi la familiarité légère que la nature pourrait adopter. Ainsi, dans toutes nos relations les uns envers les autres, rien dans la manière ne doit être en dépit des convenances ou être une source de scandale. Versets 3 à 16 Instruction pour répondre aux besoins du peuple de Dieu. Mise en garde contre une vie dans le plaisir égoïste, dans les choses temporelles. Citation de l'Écriture. Honore les veuves qui sont vraiment veuves. Mais si quelque veuve a des enfants ou des descendants, qu'ils apprennent premièrement à montrer leur piété envers leur propre maison et à rendre à ceux dont ils descendent les soins qu'ils en ont reçus, car cela est agréable devant Dieu. Or, celle qui est vraiment veuve et qui est laissée seule a mis son espérance en Dieu et persévère dans les supplications et dans les prières nuit et jour. Mais celle qui vit dans le plaisir est morte en vivant. Ordonne aussi ces choses, afin qu'elles soient irrépréhensibles. Mais si quelqu'un n'a pas soin des siens, et spécialement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un incrédule. Que la veuve soit inscrite n'ayant pas moins de 60 ans, ayant été femme d'un seul mari, ayant le témoignage d'avoir marché dans les bonnes œuvres, si elle a élevé des enfants, si elle a logé des étrangers, si elle a lavé les pieds des saints, si elle a secouru ceux qui sont dans la tribulation, si elle s'est appliquée à toute bonne œuvre. Mais refuse les veuves qui sont jeunes, car quand elles s'élèvent contre le Christ en s'abandonnant à leurs désirs, elles veulent se marier, étant en faute parce qu'elles ont rejeté leur première foi. Et en même temps, elles apprennent aussi à être oisives, allant de maison en maison. Et non seulement oisives, mais aussi causeuses, se mêlant de tout, disant des choses qui ne conviennent pas. Je veux donc que les jeunes se marient, aient des enfants, gouvernent leur maison, ne donnent aucune occasion à l'adversaire à cause des mauvais propos, car déjà quelques-unes se sont détournées après Satan. Si un fidèle ou une fidèle a des veuves, qu'il les assiste et que l'assemblée n'en soit pas chargée, afin qu'elles viennent au secours de celles qui sont vraiment veuves. Fin de citation. Nous sommes d'abord enseignés à avoir des égards pour les veuves qui sont vraiment veuves. Une vraie veuve n'est pas simplement une personne privée de son mari, mais une personne marquée par certaines qualités morales. Qu'elle soit dans le besoin ou non, elle doit être tenue en honneur. Si une vraie veuve est matériellement dans le besoin, ses descendants doivent faire preuve de piété pratique en rendant à leurs parents ce qu'ils en ont reçu, car cela est bon et agréable devant Dieu. Nous retrouvons ici cette piété qui introduit Dieu dans tous les détails de la vie et cherche à agir de manière à lui plaire. L'apôtre nous donne ensuite les beaux caractères d'une vraie veuve. Elle est laissée seule, sans ressources humaines. Sa confiance est en Dieu. Elle a mis son espérance en Dieu. Et elle est dépendante de Dieu, car elle persévère dans les supplications et dans les prières nuit et jour. En contraste avec celle qui est vraiment veuve, l'apôtre met en garde contre celle qui, dans la maison de Dieu, se laisserait aller à des habitudes de vivre dans le plaisir égoïste. De telles personnes sont mortes en vivant. Nous sommes exhortés à nous tenir pour morts au péché, mais pour vivants à Dieu dans le Christ Jésus. Romains 6, verset 11. Nous ne pouvons pas vivre pour nous-mêmes et pour Dieu en même temps. Si nous vivons pour nous-mêmes, nous sommes vivants au péché, qui est l'iniquité ou la tolérance de notre propre volonté. S'habituer à vivre dans le plaisir égoïste amène nécessairement la mort spirituelle entre l'âme et Dieu. De tels avertissements sont nécessaires afin que tous ceux de la maison de Dieu, marchant dans la piété, soient à la fois agréables à Dieu et irrépréhensibles devant les hommes. Pour un chrétien, manquer à prendre soin des siens, et spécialement de ceux de sa propre maison, c'est sombrer en dessous de ce qui est naturel, et ainsi renier la foi du christianisme qui approuve ces relations naturelles et nous enseigne à les respecter. Il est donc possible qu'un chrétien se comporte d'une manière pire qu'un incrédule, s'il agit par la chair. Il pourrait cependant y avoir dans le cercle chrétien des nécessiteux dépourvus de parenté pour s'occuper d'eux. Ceux-ci doivent être placés sur la liste de ceux dont il est juste que l'Assemblée s'occupe. Nous devons toutefois veiller à ne pas utiliser la maison de Dieu comme une simple institution de secours aux nécessiteux. En effet, la grâce peut, selon l'occasion, venir en aide aux plus délaissés. Ici, il est question des critères de convenance pour l'inscription dans une liste de ceux qui reçoivent une assistance régulière de la part de l'Assemblée. De telles personnes doivent avoir démontré, par leur vie, leur qualification pour une telle aide. Parmi les personnes en bonne santé, celles susceptibles d'être inscrites sur la liste doivent avoir un âge les rendant normalement inaptes à travailler pour leur subsistance. Elles doivent avoir été femmes d'un seul mari et avoir reçu un témoignage honorable par leurs bonnes œuvres en ayant élevé des enfants, montré de la bonté envers les étrangers, rafraîchi les saints, consoler les affligés et s'être appliqué à toute bonne œuvre. L'Écriture montre d'une manière très heureuse tout ce qu'une femme pieuse peut faire qui soit agréable à Dieu et en aide au peuple du Seigneur. Les omissions sont toutefois aussi frappantes que les bonnes œuvres énumérées. Rien n'est dit concernant l'enseignement ou la prédication, ni rien qui mettrait la femme en évidence de manière publique et contraire à l'ordre de la maison de Dieu. Les veuves plus jeunes ne doivent pas être mises sur la liste. Pourvoir à l'entretien de celles-ci de la même manière qu'à celles qui sont vraiment veuves les conduirait à oublier Christ comme leur seul objet et à n'avoir plus devant elles que le désir de remariage, quitte à se rendre coupables de rejeter leur première foi. Il est ainsi possible, non seulement de perdre son premier amour, mais aussi de rejeter sa première foi, celle du début de notre vie chrétienne qui faisait de Christ notre grand objet. En outre, mettre les veuves plus jeunes sur la liste ne ferait que les encourager à l'oisiveté, et cela leur deviendrait un piège, l'oisiveté les conduisant à passer de maison en maison, étant causeuses, ou commères, et se mêlant de tout. Une commère répète des histoires et des cancans au détriment des autres. Quelqu'un qui se mêle de tout interfère dans les affaires des autres, exprimant librement ses opinions sur des questions qui ne le regardent pas. Dans les deux cas, il n'y a aucune pensée d'aider les nécessiteux, ni de chercher à redresser ce qui ne va pas, mais plutôt la tolérance de la chair qui aime calomnier. Les commères et ceux qui se mêlent de tout répètent le vrai comme le faux, et, dans les deux cas, disent des choses qui ne conviennent pas. Le prédicateur, l'Ecclésiaste, dit « Qui va rapportant révèle le secret » Proverbe 20, verset 19. Et encore « C'est la gloire d'un homme que de s'abstenir des contestations, mais chaque fou s'y engage » Proverbe 20, verset 3. La loi dit, tu n'iras pas çà et là, médisant parmi ton peuple. Lévitique 19, verset 16. Le christianisme nous met en garde contre le fait d'aller de maison en maison, commérant et se mêlant de tout. Le jugement de l'apôtre est que les plus jeunes femmes se marient et trouvent leur propre sphère d'activité dans la vie domestique, élevant des enfants et conduisant leur maison. Tous ceux auxquels ces instructions sont adressées, qu'ils soient anciens ou veuves ou plus jeunes femmes, tous doivent se souvenir qu'ils font partie de la maison de Dieu et que dans cette maison rien ne doit être permis qui donne occasion à l'adversaire de jeter l'opprobre. En négligeant ces instructions, quelques-unes s'étaient déjà détournées après Satan. Elles peuvent bien ne pas admettre ni réaliser la gravité de leur conduite, mais de toute évidence, avancer dans la négligence ou le laxisme quant à Christ conduit l'âme à être séduite par Satan et à se détourner vers les tentations du diable. Dans les familles chrétiennes, les veuves doivent être secourues par leur propre famille, ce qui libère l'assemblée pour aider celles qui sont vraiment veuves. Versets 17 à 21. Les besoins des anciens. Citation de l'Écriture. Que les anciens qui président dûment soient estimés dignes d'un double honneur, spécialement ceux qui travaillent dans la parole et dans l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu n'embuselleras pas le bœuf qui foule le grain. Et l'ouvrier est digne de son salaire. Ne reçois pas d'accusation contre un ancien, si ce n'est quand il y a deux ou trois témoins. Ce qui pêche, convainc-les devant tous, afin que les autres aussi aient de la crainte. Je t'adjure devant Dieu et le Christ Jésus et les anges élus que tu gardes ces choses sans préférence, ne faisant rien avec partialité. Fin de citation. L'apôtre passe aux instructions relatives aux besoins de ceux qui tiennent une position officielle d'ancien et l'esprit dans lequel toute accusation contre eux doit être traitée. Le rôle d'anciens était d'être à la tête dans les assemblées de Dieu. Ils sont responsables de s'assurer du maintien de l'ordre selon Dieu en public et en privé. L'honneur leur était dû. Ceux qui accomplissaient bien leur rôle devaient être estimés dignes d'un double honneur, spécialement ceux qui, en plus du soin des saints, travaillaient dans la parole et dans l'enseignement. En outre, il ne fallait pas oublier leurs besoins temporels. L'Ancien et le Nouveau Testament sont cités tous les deux, faisant pareillement autorité en tant qu'écriture pour insister sur notre responsabilité d'aider celui qui travaille. Deutéronome 25, verset 4, Luc 10, verset 7. L'Ancien, en raison de son service, est plus sujet que d'autres à être mal compris et dénigré. Le fait d'avoir parfois à s'occuper des fautes des autres peut amener à du ressentiment et de la rancune, se traduisant par des accusations méchantes. Il peut y avoir des raisons valables pour des accusations, mais elles ne doivent pas être reçues sans témoin. Ceux qui pêchent, anciens ou non, et dont les fautes ont été pleinement prouvées par des témoins adéquats, doivent être réprimandés devant tous, afin que les autres aient de la crainte. Néanmoins, tout dans la manière de réprimander doit se faire, non pas simplement devant les autres, mais devant Dieu, dont nous sommes la maison, et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui est Fils sur la maison de Dieu, et devant les anges élus, qui sont au service de ceux qui forment la maison. Ainsi, la réprimande doit être sans préférence ou sans préjugé, laquelle se forme une opinion avant même d'avoir dûment étudié l'ensemble du cas, et sans partialité quand on préfère l'un à l'autre. Verset 22. Prudence dans l'expression de la communion. Citation de l'Écriture. N'impose les mains précipitamment à personne et ne participe pas au péché d'autrui. Garde-toi pur toi-même. Fin de citation. Dans l'Écriture, imposer les mains à un autre est un signe de communion plutôt que de transmission d'autorité comme la chrétienté l'enseigne. Une fausse libéralité peut sembler être de la générosité alors qu'elle étend imprudemment la communion à ceux qui poursuivent une mauvaise voie. Nous pouvons ainsi donner notre consentement au mal et participer au péché d'autrui. Nous avons à nous garder purs. Cette injonction prouve clairement que nous pouvons être souillés par nos associations. Verset 23. Instruction sur les besoins corporels. Citation de l'Écriture. Ne bois plus de l'eau seulement, mais use d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Fin de citation. Les besoins d'un corps faible et souffrant ne doivent pas être négligés. Timothée devait user d'un peu de vin à cause de son estomac et de ses fréquentes indispositions. Timothée n'est pas blâmé pour ses indispositions, et il n'est pas suggéré que leur fréquence prouvait un quelconque manque de foi de sa part. Il n'est pas non plus exhorté à demander à des anciens de lui imposer les mains ou même de prier pour sa guérison. Il est invité à utiliser un remède ordinaire. Il n'est toutefois question que d'un peu de vin, et cela pour le bien de son estomac fragile. Le conseil de l'apôtre ne saurait fournir une excuse pour prendre beaucoup de vin, ni pour simplement en boire pour son propre plaisir. Versets 24 et 25. Avertissement contre le fait de juger par les apparences. Citation de l'Écriture. Les péchés de quelques hommes sont manifestes d'avance et vont devant pour le jugement, mais ceux d'autres hommes aussi les suivent après. De même aussi les bonnes œuvres sont manifestes d'avance, et celles qui sont autrement ne peuvent être cachées. Fin de citation. En jugeant nos associations avec d'autres, nous devons nous garder d'être induits en erreur par les apparences. Les péchés de quelques-uns sont tellement manifestes qu'il ne peut y avoir aucun doute quant à leur caractère et à leur condamnation. D'autres peuvent être tout aussi mauvais et pourtant trompés par une bonne apparence dans la chair. Néanmoins, leurs péchés les suivront pour le jugement. Cela peut aussi être vrai de ceux en qui la grâce a opéré. Pour certains, leurs bonnes œuvres font savoir de manière évidente leur vrai caractère. D'autres peuvent être également les objets de la grâce, et pourtant leurs œuvres sont moins publiques. En temps voulu, tout viendra à la lumière. En lisant les instructions et les avertissements de l'apôtre, nous pouvons bien prendre garde à la parole « Que celui qui croit être debout prenne garde qu'il ne tombe. » 1 Corinthiens 10, verset 12. Il ressort clairement des exhortations de ce chapitre qu'un croyant peut tomber dans un état où il vit pour son plaisir égoïste. Verset 6. Il peut agir d'une manière pire qu'un incrédule et renier ainsi la foi. Verset 8. Il peut s'élever contre Christ et ainsi rejeter sa première foi. Verset 11. Il peut aller de maison en maison en commérant et en s'ingérant dans les affaires d'autrui. Verset 13. Et il peut se détourner après Satan. Verset 15. En outre, en lisant ces instructions, nous apprenons que ceux qui composent la maison de Dieu doivent chercher à vivre d'une manière bonne et agréable devant Dieu, verset 4, irrépréhensible devant les hommes, verset 7, ne donnant aucune occasion à l'adversaire, verset 14.